Avant de parler de cette belle tour lanterne, jetons un coup d'œil à la nef. De ce côté, on voit encore mieux les remaniements qu'elle a subis au XIXe siècle. Deux contreforts ont été rajoutés, deux baies ont été ouvertes et on n'a même pas pris la peine de conserver une baie romane comme sur le côté nord. L'appareil a été recouvert d'un enduit et les modillons ont disparu, laissant place à une corniche moulurée typique du XIXe siècle.
Revenons à notre tour lanterne et cherchons l'origine de ce type de construction.
Les premiers chrétiens ont d'abord utilisé comme base pour leurs édifices religieux ce qui existait, c'est-à-dire les basiliques romaines, qui, elles, n'avaient pas de tour. Mais ils ont aussi constaté que les Romains utilisaient des cloches pour diverses cérémonies et ont eu l'idée d'en faire autant pour appeler les fidèles aux offices. Pour cela, il fallait un bâtiment solide, la vibration des cloches met les structures à rude épreuve, et surtout haut, afin que le son se propage le plus loin possible. C'est ainsi que sont apparues les premières tours. Celle de Virville possède des dimensions exceptionnelles pour une église de campagne. Elle abrite depuis 1964 la cloche nommée Marie, Jeanne, Bernadette, Joseph. Pour l'histoire, elle a sonné la première fois pour l'enterrement de son créateur. Notre tour lanterne est composée de trois étages. Le premier, montant jusqu'au bas de la fenêtre, est aveugle depuis la condamnation de ce qu'il semble être une porte en bas à droite. Cette porte devait servir aux seigneurs de Tancarville pour pénétrer dans leur église sans côtoyer le reste de la population. Une autre hypothèse voudrait que cette ouverture permettait aux passants de regarder dans l'église pour voir la flamme éternelle briller. Il semblerait que cela fût courant au XIe et XIIe siècle. Le second étage est ouvert de deux étroites baies permettant d'éclairer l'intérieur. Il est rythmé de moulures horizontales très abîmées qui devaient porter un décor de billettes. De chaque côté, deux contreforts plats s'élancent quasiment jusqu'au troisième étage et soulignent toute la grandeur de la tour, leur faible épaisseur laissant soupçonner qu'ils sont tout autant décoratifs qu'architecturaux. Souvenez-vous que les bâtisseurs normands aiment particulièrement souligner les lignes architecturales de leurs édifices. Enfin, parlons de ce troisième étage. Entièrement en pierre, il est très décoré pour une simple église de campagne. En effet, sur ses quatre pans, il présente deux arcs géminés, c'est-à-dire subdivisé en deux arcs jumeaux, encadré de deux baies aveugles, tous en plein cintre. Le décor est très soigné, car chaque arc retombe sur une colonnette qui possède son propre chapiteau sculpté. Arrêtons-nous quelques instants sur une petite curiosité sur les chapiteaux entre les baies. On distingue des visages sculptés, très stylisés et peu en relief, un peu comme un camé. On voit d'ailleurs très bien celui du centre. Ces décors nous rappellent le goût des Normands pour l'orfèvrerie. On retrouve d'ailleurs ce visage aussi sur les modillons sous le clocher. Regardez notamment le second en partant de la gauche, les autres étant très usés. Je vous propose maintenant de pénétrer dans l'église afin de continuer notre visite. Mais avant d'entrer, arrêtez-vous devant la porte et regardez l'étonnant graffiti à droite. À votre avis, que représente-t-il ?